Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast Conflit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Myriam Benrad. Myriam Benrad, bonsoir. Myriam Benrad, vous êtes politologue et spécialiste de l'Irak et du monde arabe. Vous êtes professeure en relations internationales et études des conflits de la paix à l'Institut libre d'études et relations internationales, mais aussi à l'Université internationale Schiller. Alors, si vous êtes aujourd'hui au micro de Conflit, c'est aussi parce que nous nous trouvons pile 20 ans après l'anniversaire, donc 20 ans après l'invasion de l'Irak, et toujours le chaos. Alors, comme vous êtes une éminente spécialiste de l'Irak et que vous faites paraître en nouvelle édition Revue Augmentée votre ouvrage « L'Irak par-delà toutes les guerres », idée reçue sur un état en transition paru aux éditions Le Cavalier Bleu, il nous a semblé opportun de vous avoir parmi nous. Et la première question que je vous pose, c'est « Qu'a fait Bush en Irak, sinon offrir ce pays à l'Iran ?»
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une conséquence directe, on peut le dire, de l'intervention militaire américaine en Irak au printemps 2003. Et d'ailleurs, ce risque, cette ingérence iranienne, elle avait été soulignée dès l'amont de cette guerre par l'Arabie saoudite, par le partenaire saoudien des États-Unis, qui avait mis en garde contre un renversement du régime qui aboutisse à une mainmise iranienne sur l'Irak. Alors, l'Iran avait des liens très étroits sur le plan historique avec un certain nombre de communautés chiites dans le pays et plus particulièrement avec l'ancienne opposition irakienne en exil qui, je le rappelle, avait fait ses armes en Iran lors de son exil, avait organisé la résistance contre le régime de Saddam Hussein depuis l'Iran. Et ce sont ces liens quasi symbiotiques entre certains groupes chiites dans l'opposition antibassiste et entre eux, donc, entre eux et le régime iranien, qui explique aussi que les Iraniens ont eu le champ libre après 2003, et aussi bien sûr à mesure que ces groupes chiites, souvent organisés en milices, sont devenus particulièrement puissants, au point d'ailleurs de concurrencer le monopole de la violence par l'État. On le voit aujourd'hui dans l'Irak actuel, 20 ans plus tard, ces milices chiites, lesquelles ont par ailleurs combattu les djihadistes, ont un poids prépondérant.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me faire une petite typologie de ces fameuses milices chiites? Parce que vu d'Occident, on a une vision un petit peu schématique. On pense communément que la plupart prennent leurs ordres à Téhéran et qu'ils s'inscrivent dans une logique du Wilayat al-Faqih, hein, le gouvernement des dogmes. Or, on s'aperçoit que la réalité est un peu plus complexe. Première question, donc, quelle typologie peut-on dresser de ces chiites? Et deuxième question, qui complète cette première question, comment réduire l'importance des milices et des forces paramilitaires en Irak, sachant que elles ont une importance prépondérante.
Alors, du point de vue de la typologie, il est vrai que ce qu'on appelle milice en Irak renvoie à un phénomène très hétérogène. Du reste, au sein de la communauté chiite, on a des milices qui obéissent à des idéologies, des répertoires d'actions très différents. Quand je mentionnais les milices devenues particulièrement puissantes, ça a été un processus circulaire. Ce sont des milices qui sont majoritairement communautaires, voire communautaristes, qui ont un agenda en tout cas très confessionnel. Par exemple, l'organisation Badr, qui a été très longtemps dans l'opposition et qui, elle, est très très liée à l'Iran et le restera. Et ce sont, quand je parlais de processus circulaire, ce sont bien sûr les ingérences iraniennes qui aussi ont renforcé sur le terrain, au niveau armé, mais aussi au niveau politique et sociétal, ces organisations. Après, on a un autre courant, il est vrai, qui, je dirais, peut-être plus islamo-nationaliste, donc des milices chiites, qui ont notamment émergé au moment de l'occupation américaine, par exemple l'armée du Mahdi de Muqtada as-Sadr, qui, lui, a opté pour un double registre que je qualifierais d'islamo-nationaliste et de populiste. qui, de l'opposition à l'armée américaine, est passée sur une opposition aux élites au pouvoir et surtout aux milices communautaristes dont j'ai parlé précédemment. Et puis après, on a un autre courant qui est un peu plus, je dirais, un peu plus mouvant, qui est aussi sans doute plus islamo-nationaliste que proprement communautariste, qui a notamment émergé des rangs de la fameuse mobilisation populaire, ces volontaires chiites qui, à l'appel du grand ayatollah al-Sistani, ont combattu l'État islamique entre 2014 et 2018. Et là, on a vraiment différentes mouvances, mais ce sont notamment des miliciens qui ont combattu au nom de l'Irak quand même, donc dans un registre aussi très nationaliste, même si on parle de combattants généralement très pieux, très conservateurs, très attachés en tout cas à la tradition. Mais ce ne sont pas ces forces plus modérées, enfin qu'on pourrait qualifier de plus modérées, qui ont réussi sur le plan politique à pénétrer les institutions, à former des coalitions très puissantes. Ce sont même des forces très, très liées à l'Iran.
Alors, on sait aussi, Myriam Benrad, que même si l'État islamique a été vaincu militairement, le virus de Daesh tient toujours dans certaines régions du fameux triangle sunnite. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des milices sunnites en Irak? Est-ce que le gouvernement irakien n'a pas peut-être intérêt à s'inspirer de la contre-insurrection pardon, américaine avec les fameuses milices de l'appel, le Sahwa? Quid de l'état justement de cette communauté sunnite et comment elle s'inscrit aujourd'hui, 20 ans après l'invasion de l'Irak, où elle avait depuis l'époque ottomane le pouvoir de manière discontinue?
Bon, alors cette époque de pouvoir sunnite ou de ce qu'on pourrait qualifier d'ossature technocratique sunnite en Irak, qui était effectivement héritée de l'époque ottomane, cette époque est révolue, hein, ce temps est révolu. Les sunnites ont été particulièrement frappés par la guerre d'Irak pour deux raisons. D'une part, parce que la guerre a abouti à ce qu'on a appelé la politique de débasification de l'Irak, qui en réalité, au-delà de viser le régime de Saddam Hussein, à démanteler l'État irakien. Et l'État irakien, les administrations, les ministères, toute cette technocratie était, il est vrai, dominée par les sunnites. Par ailleurs, l'ancien administrateur américain Paul Bremer, qui a gouverné l'Irak entre 2003 et 2004, dans le contexte de l'autorité provisoire de la coalition, qui était le nom en fait du gouvernement officiel de l'Irak dans la période de transition, la première période de transition, a
2003,
décidé de
2005,
dissoudre l'armée.
2003, 2004,
Pardon?
2003,
Non,
2005,
c'est
c'est que
de 2003, de mai 2003 à juin 2004, puisqu'en juin 2004, on a un premier gouvernement intérimaire qui, à l'époque, est conduit par l'ancien opposant Iyad Alaoui, qui va prendre le relais, et ce qui va conduire à la préparation de la Constitution de 2005. Mais cette période 2003-2004, sous les auspices de Paul Bremer, elle est aussi fondamentale pour comprendre le fiasco américain et cette violence qui s'installe de manière endémique, dans la mesure où, au-delà de la débasification que je viens d'évoquer, l'administrateur américain va aussi décider de dissoudre l'armée. Et pour revenir à la question sunnite, les sunnites formaient aussi le cœur de l'armée irakienne. Ces mêmes hommes sont ceux, bien souvent, qui ont rejoint les rangs de l'insurrection sunnite, qui au départ n'était pas dominée par l'État islamique, il faut quand même le préciser, qui est plutôt elle aussi islamo-nationaliste, et qui, au fur et à mesure de la violence, s'est radicalisée pour laisser le champ libre à ce qui est donc devenu l'État islamique d'Irak à partir de 2006, et qui va muter, on l'a vu, jusqu'en 2014 et au-delà. Alors, la communauté sunnite, elle est fragmentée depuis cette époque. Il n'y a pas de leadership sunnite,
Non.
il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de vision. Et puis surtout, quand même, ce qui est important, un phénomène important, d'ailleurs l'État islamique, c'est un peu le résultat de cela aussi, c'est que les sunnites, au fur et à mesure de leur ostracisation, sont passés finalement de la défense de la nation irakienne à des projets séparatistes, un peu sur le modèle de l'autonomie qui a été acquise par les Kurdes. Le problème étant que ces projets, bien sûr, aujourd'hui, après l'État islamique, n'ont plus vraiment lieu d'être. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas de projet politique au sein de la communauté sunnite.
Alors, très bien, faites bien de nous rappeler que justement, il y a cette fragmentation et que effectivement, les États-Unis sont les grands perdants de l'invasion américaine et que de guerre lasse, 20 ans après, Daesh, les insurrections, ils seraient plutôt favorables à une fédéralisation de l'Irak qui n'existe pas, puisque l'Irak officiellement n'est pas un État fédéral, mais n'est pas non plus un État confessionnel. Pourtant, à voir de plus près la composition politique de l'Irak, on a l'impression que les Américains, et quand ils ont élaboré, quand ils ont accompagné le processus de transition, se sont un peu inspirés du modèle libanais. Puisque le président irakien est de confession, enfin en tout cas est kurde, le premier ministre est chiite, et vous me corrigerez, le président du Parlement est sunnite. Est-ce que c'est inscrit dans le marbre ou c'est et
Non,
jusqu'où la
alors
comparaison
en
avec le
fait,
Liban? Ouais, jusqu'où la comparaison avec le Liban, elle va? Ouais.
il y a deux choses. Tout d'abord, en réalité, la Constitution 2005, elle fédéralise l'Irak. Elle fédéralise l'Irak. Le problème est que cette Constitution, au-delà de poser un principe fédéral, elle ne l'explicite pas. Ce qui a d'ailleurs conduit les Kurdes à réclamer leur autonomie parce que les Kurdes considéraient que ce qui avait été inscrit dans la Constitution était insuffisant et qu'il leur fallait parfaire leur autonomie pour évidemment ensuite tenter d'obtenir leur indépendance, qui a été un échec. On se souvient du référendum qui a été tenu au Kurdistan qui
Ouais,
a échoué. Bon, mais
2017.
cela étant, au niveau de la formule politique, de la même manière, cette formule, elle n'est pas inscrite dans la Constitution. Il n'y a rien dans la Constitution qui dise que le Premier ministre doit être chiite, que le président du Parlement doit être sunnite et que le président est kurde. En réalité, c'est une formule qui a été, comme vous le disiez, adoptée ou mise en œuvre de manière ad hoc et qui n'a fait que se perpétuer, mais en réalité, rien n'oblige ce partage du pouvoir. Il est d'ailleurs contesté. Je pense que les Irakiens, les élites l'ont conservé parce que ça les arrangeait, parce que ça permettait de limiter les tensions dans une certaine mesure, et puis surtout de se partager un certain nombre de privilèges. Le problème, il est là aussi, c'est que on est sur une élite politique qui, au-delà des différences confessionnelles, tient aussi à la préservation de ses privilèges, ce qui explique le divorce aussi qui s'est installé avec la population. Et ce qu'on voit dans la période après État islamique, ce qui me semble important, c'est justement ce divorce quasi insurmontable entre une élite irakienne relativement repliée sur elle-même et une population qui dénonce le chômage, la corruption, qui dénonce justement ces privilèges indus, qui demande une réforme politique d'ensemble, mais laquelle ne se produit pas, n'advient pas depuis maintenant de longues années.
Comment expliquez-vous que malgré justement tout ce que les populations irakiennes ont souffert enfin en tout cas l'héritage, le traumatisme légué par l'État, l'occupation de pans entiers du territoire par des djihadistes, comment expliquez-vous le fait que malgré tout cela, la classe politique irakienne, toute confession confondue, soit à ce point corrompue par la captation des ressources pétrolières? Comment expliquer un tel niveau de corruption en Irak? Je ne connais pas les chiffres, mais bon, on est quand même dans des proportions vertigineuses.
Alors, c'est un phénomène qui n'a cessé de s'aggraver, mais là, j'aimerais remonter justement à la période 2003-2004 et à l'administration de l'Irak par la première autorité provisoire de la coalition, comme elle s'était baptisée à l'époque. Parce que ce qui s'est passé, et c'est un point important qu'il faut souligner parce que ça n'est pas souvent dans les analyses qui sont proposées, à cette époque, cette autorité provisoire de la coalition, elle hérite des comptes bancaires sur lesquels se trouvaient les revenus du pétrole irakien dans le cadre, souvenez-vous, du programme pétrole contre nourriture qui était administré par les Nations Unies et qui avait d'ailleurs lui-même déjà donné lieu à de nombreux scandales. Il y a eu de nombreux scandales, d'ailleurs, il y a
Oui,
même
c'est vrai.
eu des procès intentés par le gouvernement irakien pour récupérer des fonds qui avaient été détournés au niveau même des Nations Unies, c'est dire le scandale.
Oui, Bédon
Bon.
Sévan,
Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cet argent a été dilapidé. Il y a même de l'argent qui a disparu dans des malls. Les Américains qui étaient donc au pouvoir entre 2003 et 2004, notamment Bremer et puis tous les personnels de la coalition, ont dilapidé l'argent. Il y a aussi des procès aujourd'hui intentés aux États-Unis contre justement cette autorité provisoire de la coalition pour récupérer l'argent qui a été détourné. Dans ce contexte, le gouvernement qui prend le relais, donc qui s'appelle à l'époque gouvernement intérimaire, qui prend le relais en 2004, il hérite d'un système déjà foncièrement corrompu. Et ça va ne faire que s'aggraver, encore une fois, parce que la violence s'étend. parce que l'économie souterraine se développe à grands pas, les trafics en tout genre profitent, vous l'imaginez aussi, de la précarité de la population. Donc on se retrouve à voir par exemple des paysans qui sont envoyés sur les ruines archéologiques pour voler des antiquités, pour les revendre à des réseaux de contrebande internationaux. Parce qu'attention, le patrimoine a été aussi pillé par, au niveau international, ça ne se limite pas aux frontières de l'Irak, par notamment des collectionneurs, des réseaux illicites de trafic d'artefacts, d'antiquités. Bon. On a aussi la contrebande de pétrole, qui, vous parliez des tribus tout à l'heure, qui va alimenter un certain nombre de circuits
Mafieux.
financiers illicites, hein, mafieux, oui, on peut dire mafieux. Et alors, pour revenir à l'État islamique, l'une des raisons principales du soulèvement des tribus aux côtés des Américains contre l'État islamique entre 2007 et 2008, c'est la contrebande de pétrole, parce que les djihadistes disputent le contrôle de cette contrebande à certaines tribus très influentes. Et c'est en réaction à cela que certaines, de manière très opportuniste, vont s'allier aux Américains, pas parce qu'elles portent les Américains dans leur cœur. Ça, il faut le préciser, parce que ce ne sont pas des dimensions qu'on met beaucoup en avant, mais tout cela a joué aussi un rôle dans la réorganisation des loyautés, des solidarités, dans l'extension, comme vous le disiez, de réseaux illicites, mafieux, de trafic en tout genre. Et donc la corruption, vous l'imaginez, a trouvé un terrain fertile à tous les niveaux, d'ailleurs pas qu'au niveau de la population, mais à tous les niveaux de l'appareil étatique, des administrations, des ministères, où j'ai envie de dire, tout le monde profite d'un système qui, encore une fois, permet la préservation des privilèges et des gains qui ont été, en tout cas de ce qui est perçu comme étant des gains obtenus dans le contexte de l'après Saddam Hussein.
L'Irak connaît une situation de guerre quasi permanente depuis 1980, donc depuis 43 ans. 1980, c'est l'année de déclenchement de la guerre contre l'Iran, et depuis, ce pays n'a jamais connu la paix. Et quelque chose qui est assez frappant quand on lit votre livre et quand on se penche un peu sur les études démographiques, justement, c'est le poids de la démographie galopante de l'Irak. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu quel est l'état de la jeunesse irakienne? Quelle est sa part dans la société, qu'est-ce qu'elle représente, et ça veut dire que comment cette jeunesse est impactée à la fois par le communautarisme politique, mais aussi par l'aspiration à renverser cet État corrompu. On se souvient des révoltes de 2019 et même avant. Donc, quid de cette jeunesse irakienne, de la société civile irakienne de manière générale, est-ce qu'elle a les mêmes leviers que dans d'autres démocraties de la région comme le Liban par exemple? Et de manière générale, quid de la croissance démographique du pays?
Alors, au niveau de la population civile, je dirais que c'est très hétérogène aussi, parce que cette population a été meurtrie par la guerre, elle a été divisée par le communautarisme, par la violence, les attentats en tout genre. Elle a été évidemment aussi fatiguée, exténuée par cette élite politique qui n'a jamais répondu à ses demandes. Donc, on a aujourd'hui une jeunesse qui est très divisée. On a des jeunes qui sont membres des milices, qui sont relativement radicalisés. On a des jeunes qui sont tournés plutôt vers le progressisme, qui veulent profondément réformer la société. On a une jeunesse assez diverse. Maintenant, ce qu'on a quand même observé pendant les manifestations, c'était un ras-le-bol par rapport, je dirais de manière large, au système an-Nizam en arabe. On entendait souvent ça dans les slogans. Le rejet du système. Alors la question, qu'est-ce qu'ils mettent dans le terme système? Encore une fois, la corruption, les élites, les inégalités, les injustices, le ras-le-bol de la guerre, l'envie de passer à autre chose. Maintenant, nous avons aussi toute une partie de la jeunesse irakienne qui ne rêve que de partir aujourd'hui. Donc, ne nous voilons pas la face. Les dernières manifestations en date de 2019, lors d'octobre 2019, donc elles sont qualifiées on parle de la révolte Tichrine, qui est le mot arabe
D'octobre.
pour octobre. C'est vrai que ça a été des manifestations sans précédent. On a vu des très, très jeunes Irakiens y prendre part. Donc, ça montrait bien aussi que même des adolescents rejetaient vraiment l'état de fait qui s'imposait à eux, que ça leur était insupportable. Mais le gouvernement a répondu par la force, a réprimé les manifestants. Ensuite est venue la pandémie qui a mis fin de manière assez brutale à ce mouvement contestataire. Et aujourd'hui, la question, c'est ces manifestants ont-ils la force de reconstituer les rangs? Parce qu'ils ont encore une fois essuyé une répression très importante. D'ailleurs, une chose qui me semble essentielle de souligner à ce titre, c'est que il n'y a pas de démocratie en Irak. L'usage de la répression, la pratique politique au plus haut sommet de l'État, la manière dont les gouvernements se composent, se recomposent. On est en réalité sur un système népotique autoritaire, ou que je qualifierais de néo-autoritaire. On avait d'ailleurs vu, durant le mandat de Nouri al-Maliki, qu'il rebaptisait d'une certaine manière l'Irak. Donc, l'héritage bassiste, il n'est pas complètement effacé. Il est très clair, très présent dans la pratique politique. Et donc face à cela, il est vrai qu'on a une population qui a des moyens très limités en réalité pour répondre et pour reprendre le dessus.
Alors, on en revient un petit peu à l'histoire de l'Irak qui, depuis sa fondation en 1921, n'a jamais connu une véritable expérience démocratique, puisque les régimes autoritaires se sont succédés, quelle que soit leur couleur politique, et que les élites chiites, par revanche, ont reconstitué en fait un système népotique au détriment des autres groupes qui composent le pays.
Alors, il faut quand même faire attention à l'analyse pour vous répondre. Il faut faire attention quand même à une analyse qui soit trop confessionnalisante. Les chiites d'Irak ont été pour certains dans l'opposition, mais on a aussi énormément de chiites en Irak qui ont fait partie des administrations, qui ont été fait partie de l'armée. Vous parliez de la guerre Iran-Irak. La guerre Iran-Irak, c'est une guerre qui oppose des chiites du
Exact.
côté iranien d'une part et du côté irakien. En majorité, les soldats étaient chiites.
C'est
Donc,
cela.
il faut faire attention à ne pas non plus surconfessionnaliser
Essentialisé, ouais.
les lignes de faille, c'est plus compliqué. Maintenant, ce qui est certain, c'est que justement cette prépondérance de l'institution militaire qui a été la première créée en fait en 1921 lorsque l'État irakien a été fondé, elle n'a jamais disparu. L'Irak a toujours d'une certaine manière été un régime militaire avec des périodes d'ouverture, de tolérance, des mouvements, je dirais, issus de la société civile qui ont pu se constituer, qui ont pu militer, qui ont pu exprimer des demandes sociales, mais ça n'a jamais retiré le caractère militaire des différents régimes qui se sont succédés. Et ce caractère militaire, comme vous le disiez, a été exacerbé en devenant finalement une quasi-norme militariste qui s'est imposée à la population à partir du moment où le parti Baas a pris le pouvoir et avec l'ascension de Saddam Hussein.
Quel est votre regard sur l'idée de nation irakienne? Il y a un vrai débat, notamment on le lit dans l'ouvrage d'Adel Bakawan, qui est donc chercheur d'origine irakienne, kurdo-irakienne pour être plus précis, et qui lui part du postulat que l'Irak n'existe pas et qu'il est impossible de faire nation quand on est un Kurde irakien complètement coupé du reste du pays depuis 91 et que cela n'est pas forcément consécutif à la nouvelle donne post l'invasion américaine de 2003, mais que c'est une constante déjà depuis les fondements de l'Irak. Est-ce là une vue de l'esprit? Est-ce là exagéré que d'affirmer qu'il n'y a pas d'identité irakienne, qu'il n'y a pas d'identité supraconfessionnelle irakienne?
Alors là aussi, c'est un débat assez complexe à mon sens parce que ça dépend bien sûr des territoires. Les territoires les plus périphériques ont été évidemment, oui, mis en marche par un État centralisateur qui est devenu ensuite, comme je l'ai dit, un État autoritaire et répressif. Donc le sentiment national a pu dans certains territoires s'amenuiser. Vous parliez du Kurdistan, mais on peut aussi faire référence à une ville comme Bassora où alors qu'il y avait à Bassora une forte tradition nationaliste au début des premières années de l'Irak contemporain. Aujourd'hui, on est plutôt sur des logiques séparatistes parce que les populations se sentent loin en fait du pouvoir, loin de ce qu'on peut appeler l'Irak. Maintenant, dans le même temps, les Irakiens n'arrivent pas à trouver à totalement se réfugier dans ces identités infranationales auxquelles vous faisiez référence. Il y a cette quasi-impossibilité de se défaire de l'Irak. Bon, ce qu'on a quand même vu lors des manifestations, c'est peut-être un peu l'entre-deux du débat, on a vu les Irakiens finalement demander de la citoyenneté. Voilà, avant même de demander à refaire nation, ils demandent à être des citoyens à part entière, avoir encore une fois leur avis pris en compte, à pouvoir retrouver un semblant de vie normale, ce qui, à mon avis, est la condition sine qua non à la coexistence ou au retour d'une certaine coexistence avec peut-être un projet national qui pourra reprendre racine, mais ça ne peut pas se faire si les Irakiens ne se sentent pas citoyens. Et c'est très compliqué au regard de tout ce que j'ai souligné précédemment.
Alors, on a aussi dans votre livre, vous soulignez à quel point l'État islamique, les cadres d'État islamique qui ont participé justement à l'organisation, l'administration de la terreur, ceux qui ont pu subir des procès ont fait l'objet d'une très très forte médiatisation dans l'espace public irakien, puisque ces procès, vous le décrivez, ont été retransmis à la télévision. Et que ça a eu des vraies séquelles dans les opinions publiques. Pourtant, le virus de Daesh tient toujours en Irak. Alors, expliquez-nous un petit peu comment se sont déroulés ces procès, où est-ce que ils se sont déroulés, et puis comment les cellules dormantes djihadistes arrivent à prospérer dans cet Irak de plus en plus fragile.
Alors moi je pense qu'il est important d'avoir une approche sociologique, voire même anthropologique du fait djihadiste en Irak. Parce que ces djihadistes, ce sont des Irakiens qui sont issus de certaines tribus sunnites, qui sont d'ailleurs aussi souvent issus de des milieux ruraux, plus défavorisés, qui voyaient dans le djihad aussi un facteur d'ascension sociale parfois, dans un pays où la jeunesse est largement désœuvrée, notamment la jeunesse sunnite. Dans certains cas, ces Irakiens ont fait l'expérience des combats, des batailles avec les Américains. Et puis, on a eu, on le sait, une mouvance étrangère de combattants qui s'est greffée sur ce paysage insurrectionnel sunnite local. Maintenant, les Irakiens restent les plus nombreux. Et puis, pourquoi, malgré des procès qui ont parfois abouti à des condamnations à mort, il y a eu cette vengeance irakienne contre les djihadistes bien sûr, après la défaite de l'État islamique, qui a mené à des procès qu'on pourrait qualifier d'arbitraires, à une justice martiale, mais les Irakiens l'ont demandé, donc c'était compliqué au niveau politique d'être tendre, entre guillemets, avec ces djihadistes qui avaient commis toutes sortes d'exactions, en tout cas de faits criminels parfois très graves. On n'a pas vraiment, si vous voulez, chercher à, par exemple, dissocier les meurtriers des simples complices. Donc, il y a vraiment eu une espèce de justice vengeresse, tous azimuts, qui s'est emparée du pays, qui a visé toute cette communauté sunnite dans un élan de rétribution. Maintenant, le mouvement n'a pas disparu parce que c'est un mouvement, comme j'ai dit, qui est quasi social, qui est très, très ancré parmi certaines populations locales encore, et qui se reforme parce qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de reconstruction, parce qu'il n'y a pas justement de projet national, parce que la jeunesse n'a pas d'opportunité, parce que celle-ci est très vulnérable et donc très facilement recrutée pour un peu d'argent, parce que n'oublions pas que beaucoup d'Irakiens, aussi de jeunes Irakiens, ont rejoint les rangs des groupes djihadistes parce qu'on allait par exemple les payer. Leur verser une certaine somme d'argent pour aller poser des explosifs ici et là. Ou alors on promettait, après leur martyre, de s'occuper de leurs familles, qui étaient des familles par ailleurs extrêmement pauvres et dépossédées. Donc il y a tout un terreau social en fait au djihadisme, je pense en tout cas en Irak, qu'on ne peut pas mettre de côté parce que les racines, elles sont là. Et puis l'éducation, cette jeunesse désœuvrée qui s'est engagée dans les milieux djihadistes. En Irak, elle ne fait pas l'objet de processus ce qu'on a pu appeler la déradicalisation en Irak ou de désengagement. Il n'y a pas de prise en charge. Donc, on a en fait dans la nature aujourd'hui un certain nombre d'éléments radicalisés qui le restent et il est très difficile pour l'Irak de tarir. On a tari le mouvement, mais de le tarir définitivement, c'est très compliqué.
Votre ouvrage, Myriam Benrad, le sous-titre, cet ouvrage, l'Irak par-delà toutes les guerres, le sous-titre de l'ouvrage est Idées reçues sur un État en transition. Ça fait 20 ans que Saddam Hussein a été renversé. Pourquoi garder cette adjectif? Pourquoi garder le terme transition? Transition vers quoi? Vers quel régime?
Bah, le terme transition montre bien qu'on a, oui, on passe d'un régime dictatorial, le régime fasciste, qui a été, bon, on le sait, frappé par des sanctions internationales jusqu'à la fin des années 90, qui était mise au ban de la communauté internationale, qui, comme vous l'avez dit, s'est engagée dans des guerres désastreuses. On est quand même en 2003 avec la chute de ce régime dans un moment de rupture. Maintenant, le problème, c'est que la rupture aboutit donc à un moment, voilà, une séquence de transition, ce qu'on pourrait appeler transition. Mais si vous me demandez de caractériser cette transition ou je dirais l'issue de cette transition, je ne la connais pas parce que oui, depuis 20 ans, nous sommes dans une transition plus particulièrement enfin, violente, instable, à certains moments chaotique, dont on n'entrevoit pas la fin. Il est impossible de dire que l'Irak est stabilisé sur beaucoup d'aspects. Donc la transition se poursuit vers quoi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, pas vers la démocratie qui a été promise, pas vers la libération qui a été garantie à l'époque en 2003 par les Américains, qui n'a jamais eu lieu en réalité.
Miriam Benrad, merci infiniment pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste de l'Irak et du monde arabe, que vous enseignez les relations internationales à l'Université internationale Schiller. Je rappelle également à nos auditeurs votre dernier ouvrage paru en poche, L'Irak par-delà toutes les guerres, chez le Cavalier Bleu. Je rappelle aussi à nos auditeurs qui peuvent se procurer notre dernier numéro de la revue Conflit en kiosque consacré à l'Indo-Pacifique, un atout pour la France, et que le meilleur moyen de nous soutenir et de nous aider à continuer à proposer des contenus de qualité reste l'abonnement. Merci beaucoup, Myriam Benrad.
Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.